Un balado Radio-Canada audio.
Aujourd'hui, le 2 juin, enfin une victoire pour le CF Montréal. Chelsea champion, Kanté magistral. Kevin De Bruyne blessé à 10 jours de l'Euro. Et Evelyne Bien et Bianca Saint-Georges sélectionnées avec l'équipe canadienne.
Ici Yassine Camara.
Ici Olivier Tremblay.
Ici Christine Roger. Et vous écoutez Tellement Soccer.
Sur l'état de la surface d'affaire. Oh, le but! Oh, le but exceptionnel!
When the seagull follows the troll.
C'est ça le football. Aujourd'hui, on n'a pas été bon dans le jeu et on gagne. Donc, on prend les 3 points parce qu'on a trop souffert ces derniers temps pour ne pas les prendre. Donc, je suis content de la résilience des gars. Je suis content du fait qu'il n'ait pas lâché. Malgré une performance très moyenne collectivement, mais en termes d'attitude, bravo à eux.
Bonjour, bienvenue à cet épisode numéro 9 de Tellement Soccer. Salut Olivier.
Allô.
Allô Hassan.
Bonjour.
On a entendu d'entrée de jeu l'entraîneur du CF Montréal, Wilfried Nancy, à la suite de cette victoire in extremis de 1-0 du CF Montréal contre Chicago. Je dis in extremis parce que le club a encore une fois failli l'échapper en fin de match. Chicago qui a marqué, mais finalement le but a été refusé sur un hors-jeu. On sent que Wilfried Nancy n'était pas particulièrement content de ce match-là, même si on a réussi à obtenir les 3 points.
Oui, j'aime bien son analyse parce qu'il est pragmatique et réaliste. Sur le plan comptable, bien sûr, c'est 3 points de prix et c'est excellent. J'ai envie de dire même que c'est l'essentiel finalement dans le sport de haut niveau. Mais il s'attarde beaucoup sur le contenu et c'est vrai que le contenu a été très pauvre collectivement. Je pense que c'est le pire match que j'ai vu depuis le début de saison. On avait l'impression de voir une équipe déliée, ne pas travailler ensemble. Tout ce qu'on avait pu voir en fait au début de saison, bah, c'était plus compliqué à mettre en évidence aujourd'hui. Et forcément, il faut pas avoir cette facilité de se dire qu'on a gagné, on passe à autre chose. Non, il faut vraiment analyser et voir vraiment ce qui ne va pas pour progresser et avoir une équipe qui soit beaucoup plus cohérente sur le terrain. Parce que là, c'était face à une pauvre équipe de Chicago, en plus, compliquée.
Ali?
Moi, je bois les paroles de Hassan depuis tantôt parce que après le match, j'ai pris le crayon de Will Smith dans Men in Black puis je m'en suis servi sur moi-même parce que c'était un spectacle, un anti-spectacle.
Qu'est-ce qui a cloché, selon toi?
Je pense qu'il n'y avait personne qui était à point, tout simplement. C'était un de ces matchs-là qui était pas acheté à la poubelle, mais il y a très peu d'enseignements à tirer de ça, selon moi. Et surtout, c'est ça, c'est purement sur le résultat qu'on s'attarde. Puis écoute, c'est correct aussi.
Bon,
je suis d'accord avec Hassan. Ouais. Je suis d'accord avec Hassan que Wilfried Nancy, c'est pas défilé. Il a porté le bon jugement sur ce match-là. Mais moi, s'il y a un petit quelque chose de positif à aller chercher dans ce match-là, c'est Mason Toy qui ne marque pas un but d'anthologie. Parce qu'on a donc parlé de « Ah, Mason, c'est à cause de but d'anthologie de Mason Toy que le CF Montréal a été capable d'aller chercher des résultats, mais qui marque sur une action comme ça, qui est construite, où est-ce qu'on voit que c'est vraiment quelque chose qu'on essayait, quelque chose qui, je vais emprunter le terme de mon ami Matt Doyle, quelque chose de répétable, même si c'est pas un super beau mot. Je suis même pas sûr que ça existe. Vous m'écrirez si ça existe pas. Mais c'est ça. Puis d'ailleurs, Zoran Basson qui donne ce centre-là. Zoran Basson est peut-être un autre de ces points positifs-là parce qu'il n'y en a pas énormément. J'ai trouvé qu'il avait fait quand même un bon match, d'autant plus que c'était un poste visiblement controversé. Là. Les gens n'aiment pas que Mustapha Kiza ait été écarté de la sélection. Fait que, non, c'est ça. Faut aller chercher, faut se plisser les yeux là, pour aller trouver les points positifs.
Mais c'est quand même Mason Toy qui a fait encore la différence. Là, si on revient sur le début de saison en entier, là, on a une pause d'un mois. Le prochain match est seulement le 23 juin. Si je vous demandais, ça a été quoi votre plus belle surprise et votre plus grande déception jusqu'ici?
Ma plus grande surprise, hormis Toy, bien entendu, qu'on met en avant, parce qu'il a mis des super buts et décisifs, je dirais Camacho, moi. Camacho, je trouve qu'il a retrouvé Ses qualités qui ont fait de lui un joueur professionnel, tout simplement.
Surtout qu'il a été beaucoup critiqué l'année dernière.
Exactement, exactement. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il puisse revenir de cette façon, mais sincèrement, il est excellent dans ce qu'il fait. Une belle attitude, il parle beaucoup, je le vois très communicatif, très... il fait beaucoup de signes de l'arrière, il fait monter les lignes et je trouve que son attitude est parfaite pour un joueur de son potentiel. Donc, je le mettrai lui en avant.
Je vais aller dans le même secteur de jeu. Puis je ne sais pas si ça compte nécessairement comme une surprise. Je pense que c'est ça qu'on espérait de ce gars-là, mais je pense que son absence a aussi mis en lumière ses qualités. Kamal Miller, ouais. Je pense que c'est très intéressant ce qu'il peut apporter à ce collectif-là. Quand on a une défense à trois comme ça, c'est important aussi de ne pas avoir seulement trois gars qui restent en arrière puis qui attendent puis qui sont réactifs. Kamal Miller a fait des choses vraiment intéressantes d'un point de vue offensif dans la construction des séquences de jeu. Puis je pense qu'on a hâte de le revoir aussi. Puis en plus, quand on pense que Louis Binks tranquillement revient, tu sais, on se pose tellement de questions d'habitude en plus sur la défense du CF Montréal. Puis là, on voit des trucs intéressants qui s'en viennent. C'est rafraîchissant.
Oui, c'est peut-être devenu leur force finalement. Et votre déception, ce serait quoi?
J'irais avec Kyoto, même si c'est un petit peu sévère à mes yeux. Je dis sévère pourquoi? Parce que j'attends énormément de lui au vu de la saison qu'il a faite l'année dernière. Et il est capable justement d'affirmer le statut qu'il veut avoir. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur. Quand on fait une belle saison, c'est de recommencer et de montrer ce qu'on vaut. Ça va être l'enjeu pour lui, d'arriver mentalement à assumer tout ça et à reprendre confiance tout doucement et d'arriver à grandir au fur et à mesure de la saison. C'est ce que j'ai envie de voir de sa part.
Dans le fond, c'est complètement le contraire de Camacho. Camacho avait une saison difficile l'année dernière. Finalement, il pouvait juste surprendre. Mais Kyoto, les attentes sont tellement grandes qu'il peut quasiment juste décevoir, malheureusement.
Ouais.
Oli?
Je pense que c'est un peu le même constat dans le cas
de... Vous êtes donc bien d'accord.
Le cas de Mihailovic, qui a eu des super bons flashs. Il a fait des bons matchs, mais je pense qu'avec les attentes qu'on avait placées sur lui, on était en droit de s'attendre à un peu plus. En même temps, je ne veux pas lancer le joueur en dessous de l'autobus aussi. Je pense qu'il est victime des circonstances un peu, justement parce qu'on lui en demande beaucoup. Puis je pense que Wilfried Nancy en est conscient aussi qu'il y a encore du travail à faire dans l'animation offensive. Je pense que ça va se régler, mais je pense qu'on est en droit de s'attendre un tout petit peu plus, même s'il y a quand même des bonnes bases sur lesquelles travailler.
Tu en avais parlé il y a quelques semaines, justement. Il faisait très bien, mais je me souviens que tu avais dit « Ouais, mais c'est dangereux parce qu'on lui en demande beaucoup. À un moment donné, il ne pourra pas tout faire tout seul. » Puis c'est d'admettre que c'est un peu ce qui s'est passé depuis peut-être deux matchs.
Oui, c'est ça. Puis quand on regarde aussi qui on peut amener pour aller lui permettre de souffler un peu, mettre derrière les deux attaquants. Jusqu'à maintenant, on a essayé Joaquin Torres. Je ne sais pas. La taille de l'échantillon est très, très mince. Là. Je ne veux pas, encore une fois, être trop sévère envers le joueur. Mais écoute, on le répète depuis le début, c'est encore... relativement tôt dans la saison, même si on est avancé d'un point de vue de la progression de ce collectif-là, qui n'a pas eu beaucoup de matchs de pré-saison pour justement prévoir les trucs qu'il voulait faire sur le terrain. J'ose espérer que justement dans le mois qui vient avec la trêve et tout ça, puis on le voit aussi dans certains championnats aussi, en Allemagne par exemple, quand il y a une trêve hivernale, les équipes aiment ça aussi, pouvoir aller faire des stages à l'étranger puis aller travailler certains trucs. Je pense que ça peut être bénéfique.
Parmi les nouvelles qui sont sorties au courant des derniers jours, bien évidemment, il y a Rémi Vercoutre, l'entraîneur des gardiens, qui a annoncé qu'il quittait le CF Montréal pour aller rejoindre Lyon. Là, évidemment, il y a des noms qui circulent au cours des derniers jours. Il y a Jack Stern, qui était avec l'Impact de Montréal auparavant, qui est maintenant avec le FC Cincinnati. Est-ce qu'il voudra revenir à Montréal? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des idées qui pourrait devenir le futur entraîneur des gardiens? Évidemment, il va falloir que ça se fasse rapidement et qu'on ait un entraîneur pour le 23 juin.
Oui, c'est savoir si on lui a proposé déjà, ouais. Parce que c'est vrai qu'il est engagé. Cincinnati, enfin, il est là-bas, il est dans un bon projet avec des gens qu'il connaît très bien. Quitter ce projet-là pour venir au CF Montréal, il faudrait vraiment qu'on lui propose quelque chose de bien sûr concret, mais sur du long terme, qui lui permette de s'installer et d'avoir une vision à long terme. Donc, je ne sais pas. On a parlé de Greg Sutton aussi, qui est un super gars, un super gardien aussi et qui a beaucoup d'expérience. Je pense que c'est un gardien qui ferait amplement l'affaire pour le CF Montréal. Mais écoute, le monde est grand, j'ai envie de dire, le monde du foot. Il y a beaucoup de gardiens ou de gardiens en retraite qui seraient intéressés par ce projet-là. Et je ne m'inquiète vraiment pas pour le CF Montréal qui trouvera assurément quelqu'un, même peut-être en Belgique, là, à travers Olivier Renard.
C'est ça. D'autant plus qu'Olivier Renard, c'est un ancien gardien. Je veux dire, s'il y a un poste, s'il y a des qualités qu'il sait qu'il doit avoir au sein de son effectif, au sein de son personnel plutôt, je pense qu'il y a un certain métier derrière ça aussi. Puis les gardiens habituellement une belle vision d'ensemble aussi parce qu'ils sont derrière puis ils voient tout ce qui se passe devant eux. Donc non, je suis pas inquiet. J'aime la suggestion de Jack Stern, ne serait-ce que pour le romantique de l'affaire. Je veux dire, je suis sûr qu'il cracherait pas sur l'idée de revenir à Montréal, mais comme Asun l'a dit, ça va prendre des garanties.
Ouais, puis en plus, pour le petit aspect potinage de notre balado, ben sa conjointe est montréalaise, ils ont un enfant, donc peut-être si madame, elle veut revenir, des fois, ça peut peser dans la balance, qui sait?
On va en parler à Tellement Potin.
Tellement potin, oui. C'est toi qui vas s'occuper de ce bloc-là, n'est-ce pas, Olivier?
N'est-ce pas.
Donc, prochain match, on l'a dit, 23 juin seulement, c'est contre DC United. On espérait que ce soit au Stade Saputo, mais Wilfried Nancy a confirmé que ce sera à Miami, pour ce match-là du moins. Mais on se dit que ce n'est que partie remise pour les partisans montréalais. Chelsea qui remporte la Ligue des champions grâce à une victoire de 1-0 contre Manchester City. Mais au-delà du pointage, bon, il y a beaucoup de choses qui ont retenu notre attention. On va commencer, on n'a pas le choix, par N'Golo Kanté. On en avait parlé il y a quelques semaines parce que déjà, il avait montré qu'il portait l'équipe sur ses épaules, rien de moins. Et là, encore une fois, il est nommé l'homme du match lors de cette grande finale-là. Est-ce que c'est lui qui devrait remporter le Ballon d'Or? Et est-ce que c'est peut-être... Est-ce que je vois trop loin? Je sais pas. Mais est-ce que c'est le meilleur milieu de terrain de la dernière décennie?
Il devrait gagner tous les Ballons d'Or jusqu'à la fin de l'humanité. C'est-à-dire qu'il soit retraité, mort, je m'en fous. Il devrait gagner tous les Ballons d'Or. Donc, non, je vais laisser Asun. Je veux dire, c'est un de ses sujets favoris, N'Golo Kanté. Là,
avec Benzema, oui.
C'est ça ce que j'allais dire, avec Benzema. Mais non, écoute, il est extraordinaire. Il est extraordinaire et sincèrement, c'est... À mes yeux, aujourd'hui... J'allais dire le meilleur joueur du monde, mais presque. Pourquoi? Parce que j'ai jamais vu un joueur en Ligue des Champions prendre trois fois le titre d'homme du match,
c'est
en
fou,
fait.
Hein?
Et c'est pas, on parle pas de huitième de finale ou des matchs de poule. C'est les matchs décisifs qui font gagner une équipe. Et quand t'as trois fois d'affilée ce titre-là, ça veut dire quelque chose. Non seulement prendre ce titre-là, mais d'être milieu défensif, je veux dire. Et d'avoir ce titre-là au milieu d'une... d'une panoplie de stars et de joueurs qui valent des millions et des millions là, entre Manchester City et Chelsea. Je veux dire, comment on fait? Moi, je n'ai jamais vu ça.
Souvent, ça va être le joueur de pointe, l'attaquant, le buteur qui va avoir ce titre-là. Mais qu'est-ce qui fait qui sort du lot? T'sais, qu'est-ce qui fait que c'est un milieu de terrain, un milieu défensif qui est hors norme?
Pour moi, ça reste encore l'interprétation de l'espace. Ce gars-là a...
sa vision, hein?
Une vision remarquable. Il sait... comment se déplacer dans son collectif. Il sait quel trou aller boucher. Il sait quel espace aller exploiter. C'est remarquable. C'est absolument remarquable. Puis c'est, encore une fois, le genre de qualité qui demeure tellement... On a besoin d'apprécier ça davantage. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça me fait penser un peu aussi à un Makelele autrefois qui avait été vendu à Chelsea par Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Je suis sûr qu'Asun va s'en rappeler aussi. Puis Zidane avait dit « Pourquoi mettre une autre couche de peinture or sur la Bentley quand on vend le moteur?
Wow. » Ouais, exactement.
C'était ça, Bankelele. Mm-hmm. Puis c'est un peu ça, Kanté aussi. Il y a des qualités qui sont peut-être moins évidentes, pas moins évidentes, mais tu sais, moins flashy. C'est moins spectaculaire. Mais Dieu du ciel, quel joueur.
Mais là, il a un truc de plus que Makelele.
Oui.
Vraiment, c'est la projection vers l'avant.
Oui.
C'est-à-dire qu'il perce des lignes à travers ses passes ou à travers sa conduite de balle pour aller fixer au maximum les défenseurs et distiller des balles de but ou aller marquer lui-même. Je veux dire, il est... Moi, je sais pas, je crois que j'ai jamais vu ça. Sincèrement, là, en termes de QI football, j'ai jamais vu. Il est extraordinaire et j'aimerais vraiment, pour répondre à ta question, qu'il puisse, bien sûr, aller au bout avec l'équipe de France et remporter le titre du Ballon d'Or parce que ce serait amplement mérité pour un garçon qui était juste amateur il y a quelques années qui a une progression fulgurante.
C'est ça, c'est une victoire aussi pour justement les gars comme ça qui bûchent, qui travaillent puis qui commencent à un certain niveau puis qui progressent. Puis à un moment donné, tu peux juste pas ignorer leur qualité. T'sais, on parle pas seulement... n'y a pas juste des Cristiano Ronaldo qui sont formés au Portugal, puis là, Alex Ferguson les remarque, puis ils commencent tout de suite au plus haut niveau, puis ils progressent dans ce scénario-là. Il y en a d'autres des manières de devenir des joueurs de l'élite, puis c'est une victoire pour tous les joueurs, justement, qu'on remarque un peu moins au départ.
Ouais, et puis, on a besoin justement de ces stars qui oui, mettent en avant le football.
Parce qu'au-delà du joueur, c'est un très bel exemple, c'est un bel humain, c'est quelque chose de très quelqu'un de très impliqué.
C'est exactement ça. C'est son humilité, sa simplicité, le fait de rouler en Mini Cooper encore aujourd'hui quand d'autres sont en Bentley à l'entraînement. C'est le fait d'aller en trottinette à l'entraînement. Je veux dire, c'est ce qu'on aime, c'est ce qui fait justement qu'on aime avoir sentiment d'appartenir avec ces personnes-là qui sont juste dans la simplicité, dans l'humilité et qui flambent à travers leur performance sur le terrain seulement. Donc moi, je suis juste fan. Là, je vais prendre le maillot, c'est sûr, de Kanté pour l'Euro.
On va avoir l'occasion d'en reparler de long en large la semaine prochaine. Asun, on doit te faire patienter. Mais oui, on a très, très hâte de le voir à l'Euro avec l'équipe de France. On l'a dit déjà, Asun, on te félicite pour ton titre de champion à l'Euro. On voulait parler aussi, veux pas, de Olivier Giroud, qui devient champion, lui qui est déjà champion du monde. Il est quand même chanceux, on va se le dire. Là. On dit qu'il est chanceux, mais en même temps, si on regarde juste son palmarès, là, sa fiche Wikipédia, on a envie de dire aussi que c'est un grand joueur. Vous vous situez où? Parce que c'est incroyable. Je veux dire, on le voit le lendemain matin en train de déjeuner avec la coupe, mais dans le fond, il a pas joué.
Il n'y a pas le choix de dire que c'est un grand champion parce qu'à la fin, son palmarès est juste extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a ce débat à se dire comment c'est possible que c'est à côté de Zlatan qui l'ont jamais touché, t'as un Messi qui a jamais pris la Coupe du Monde et t'as Giroud à côté qui est là, qui peut se targuer de dire que moi, je suis champion du monde, je suis champion de France, j'ai gagné la Ligue des champions.
Il a quand même marqué des buts. En Ligue des champions, on a marqué, je pense, 6 cette année.
Et des buts extraordinaires.
C'est ça.
Et des buts extraordinaires. Même avec Arsenal, il a des buts qui sont juste fabuleux, mais qui sont rentrés dans l'histoire, justement, du foot, parce que c'est des buts extraordinaires. Donc, il faut lui donner, parce que c'est là encore, à l'instar d'N'Golo Kanté, c'est la persévérance et le travail qui paye. Il a foi en lui. Il est très croyant, vraiment très croyant. Et il sait que c'est à travers le travail qu'il pourra obtenir des résultats. Et comme je le dis, il y a des Neymar, il y a des Mbappé, il y a des stars qui sont faites pour ça. Mais tu as aussi des Olivier Giroud qui, à travers la persévérance, le fait de croire en soi, de se relever malgré les critiques, malgré les moqueries, parce qu'il y en a beaucoup sur lui, bah, le gars, il arrive quand même à être là, à avoir tous ses trophées, à être le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, derrière Thierry Henry, devant Platini, devant Zidane, devant Trezeguet. Je veux dire, c'est des faits, là. Donc, on est obligé de lui dire bravo pour ce qu'il fait. Et moi, je suis content de le voir à l'Euro, de voir participer. Et si tu veux gagner des trophées, tu sais que tu dois avoir Giroud sur le banc quelque part, que ce soit en équipe de France ou
en club. Mais il faut que tu l'ailles sur le banc. C'est qu'on dirait qu'en arrive le match ultime, ben, il remporte. Mais finalement, il n'a pas joué un rôle sur le terrain.
C'est pour ça qu'il y a des groupes. C'est pour ça que c'est des groupes. C'est pas juste 11 gars qui s'en vont jouer. Ça prend des j'allais dire force tranquille. C'est pas tout à fait ça, Olivier Giroud. Mais tu sais, il y a un peu de ça aussi. Tu sais, c'est quelqu'un
qui... Tu es en train de me dire qu'il est bon dans le vestiaire?
Oui, c'est un peu ça que je suis en train de dire aussi. Puis c'est un peu, j'ai le goût de dire que c'est ce que l'équipe de France a réussi à faire souvent au fil des années, c'est d'avoir des attaquants comme ça, puis on le répète aussi pour Benzema, qui se mettent au service du collectif aussi. Giroud, à la dernière Coupe du Monde gagnée par la France, je veux dire, il a été vraiment très, très bon, puis c'était pas le joueur qu'on remarquait sur le terrain, forcément, mais il faisait jouer les autres, puis c'est important d'avoir ça aussi.
Ouais.
Mais... Tu parles de « il est bon dans le vestiaire », j'ai hâte de le voir dans le vestiaire avec Benzema, un autre sujet dont on pourra
hey boy.
Parler la semaine prochaine. Mais c'est sans doute son dernier match avec Chelsea. Il y a des rumeurs qu'il envoie avec l'AC Milan pour la saison prochaine. On aura l'occasion d'en reparler au cours des prochaines semaines. Et dans cette finale de Ligue des champions, ben, il y a aussi Kevin De Bruyne qui s'est blessé à quoi 10 jours de l'Euro. Quel mauvais timing. Donc, fracture du nez et de l'os orbital. Et je suis obligée de dire que le visage de la Belgique vient de changer totalement. Si jamais il n'est pas en mesure de jouer avec un Eden Hazard qui n'est plus, j'allais dire, dans la forme des beaux jours, c'est le moins qu'on puisse dire, là, ça serait très grave pour la Belgique.
Oui, c'est compliqué quand tu as ton joueur phare qui prend une grosse blessure comme ça à 10 jours du début du championnat. C'est compliqué, du tournoi. Donc, moi, je pense qu'il... ils vont tout faire, bien entendu, pour essayer de l'avoir sur le terrain. Je pense qu'il y a des solutions à ça, peut-être, un masque à porter ou une protection. Parce que De Bruyne est tellement important au vu de ce que fait malheureusement Eden Hazard depuis 2 ans maintenant. C'est vraiment lui qui doit porter l'équipe et être ce leader technique. Donc j'espère, en tout cas pour le spectacle aussi, qu'il se remettra et qu'il sera présent pour ce tournoi.
Parce qu'on dit que le foot est un sport d'équipe, là, mais je veux dire, quand on parle de la Belgique, si on n'a pas Kevin De Bruyne, ça change tout.
Ouais, mais ils peuvent faire entrer Thierry Henry, je veux dire.
Ben justement,
un switch international.
On va rendre hommage à notre producteur réalisateur Simon Kremer, le Belge. Donc Thierry Henry qui sera deuxième entraîneur adjoint avec les Diables Rouges. Troisième. Ouais. Bref, il va être là avec... il va être à quelque part, peut-être porteur d'eau, je sais pas, mais bref, il va être avec les Diables Rouges à l'Euro. On a appris ça cette semaine. Donc Simon, on te souhaite bonne chance pour la Belgique à l'Euro.
Vas-y, Kevin, va au bout. Il y a une occasion exceptionnelle
à droite.
De la droite vers Meunier. Voilà la passe.
Ils vont le faire.
Ça va être le but. Meunier pour Lukaku.
Ils vont le faire. Et c'est que... Je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit.
Goal pour la Belgique.
C'est un rêve que j'ai commencé à avoir dès que j'ai commencé à être avec l'équipe canadienne. Parce que pour être honnête, j'ai pas pensé que c'était possible d'aller aux Olympiques quand j'étais plus jeune. J'avais pas d'idole en tant que telle. On parlait pas de ça aux jeunes. Puis on pouvait juste pas penser que, surtout quelqu'un qui vient de Saint-Félix-de-Valois, on parle pas de ça, tu sais. Fait que j'ai vraiment pas pensé avant que je commence à être avec Canada, puis que j'ai eu ma première Coupe du monde, puis j'ai dit, ah, oh, c'était tellement une belle expérience, j'aimerais ça vivre quelque chose encore plus gros avec... un meilleur calibre, quand je vais être encore meilleur. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai commencé à rêver.
Donc, c'est Bianca St-Georges, joueuse des Red Stars de Chicago, qui vient d'être sélectionnée avec l'équipe canadienne par Beth Friesman pour 2 matchs amicaux. Évidemment, c'est pour la préparation en vue des Jeux olympiques de Tokyo. Donc, 2 Québécoises, Bianca St-Georges et Evelyne Bien, 2 Franco-Ontariennes, Vanessa Gide et Chloé Lacasse. Dans le cas de Bianca St-Georges, bon, elle s'est blessée récemment. Elle a été opérée au genou. On avait discuté ensemble. On se dit, mon Dieu, ça va être... c'est rapide, sa réadaptation. On a parlé aussi du fait qu'elle faisait de la planche à roulettes sur Instagram alors qu'elle est en convalescence. Mais bon, c'est un autre débat. Mais bref, on trouvait que c'était rapide. Elle a pris son temps. Là, ça fait 2 matchs qu'elle est sur le banc avec les Red Stars, mais elle n'a pas joué encore. Beth Priestman, il avait dit, fais-toi-en pas. Prends ton temps. Ta place est réservée avec l'équipe canadienne. Mais elle a fait seulement 5 jours avec l'équipe senior en carrière. Donc, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Elle se retrouve dans ce camp-là. Je veux dire, ça passe ou ça casse pour elle. C'est bientôt les Jeux olympiques. Puis même si, bon, elle est en forme et complètement rétablie, ben ça reste qu'elle n'a pas vu d'action dans un match, là.
Non, c'est ça. Mais je trouve ça quand même important qu'une sélectionneuse qui dise quelque chose à sa joueuse comme ça tienne parole aussi, malgré les circonstances, malgré le fait qu'elle est seulement sur le banc pour les Red Stars puis qu'il y a eu cette blessure-là. Je pense que c'est important de, justement, mettre la joueuse dans ces dispositions-là, lui dire, regarde, oui, tu peux te fier à nous, tu peux te fier à ce programme-ci. C'est sûr que ça va être difficile. Quand on regarde aussi les options que le Canada a à son poste aussi, je veux dire, le Canada n'est pas démuni non plus. Est-ce que c'est dur à dire. Ouais. Je pense que c'est serré un petit peu. Mais au moins, elle est encore jeune. Je veux dire, le rêve olympique peut encore durer des années et des années. Mais je pense que ça va être un dur coup à encaisser quand même si jamais elle ne peut pas être sur l'avion pour Tokyo.
Parce qu'Assoun, tu as eu quelques blessures en carrière lorsque tu étais joueur.
Oui, beaucoup.
Bon, évidemment, c'est quoi là, tu sais, je veux dire, tu peux être en super forme physique là, parce que tu as fait une super bonne réadaptation, mais la marge entre je pense que je suis prêt et être en situation de match est quand même grande, là.
Oui, c'est le plus grand piège, j'ai envie de dire. Tu sais, quand on est en réhabilitation, le plus souvent, en tout cas, pour avoir échangé avec d'autres joueurs aussi, on se sent en pleine forme, en pleine bourre, l'impression d'avoir retrouvé nos sensations. Et on est souvent même meilleur que les autres à notre tour sur le terrain d'entraînement parce que le terrain nous a manqué, l'envie de se surpasser est là. Donc, tu es en sur-régime, j'ai envie de dire. Mais lorsqu'arrive la compétition, c'est là que tu sens que... Oh,
okay. C'est là que tu pousses la machine.
OK. Là où c'est le moment où je dois être prêt, où tu sens que c'est plus compliqué, où tu n'as pas de rythme, tu peux pas, t'as pas le tempo justement de la compétition et des matchs, et t'es rattrapé à la réalité. La réalité te rattrape et ça devient vraiment compliqué. Donc c'est sûr que Voilà, il y a l'envie d'y être, il y a le fait de tout faire pour y être, mais sincèrement, c'est vrai que comme tu as dit, c'est délicat, la balance et le pont qu'il y a entre le potentiel qu'on peut avoir et la volonté qu'on peut avoir et la réalité du terrain qui est beaucoup, beaucoup plus difficile que ça.
Mais bon, comme tu dis, Oli, au moins, Beth Risman tient sa parole, lui donne la chance de se prouver lors de ces deux matchs amicaux. Quand on regarde les joueurs qui ont été sélectionnés, j'ai comme l'impression qu'il y a un certain changement de garde qui est en train de s'opérer. Bon, il reste encore des joueuses d'expérience, mais il y a quand même Matheson qui vraisemblablement ne sera pas là parce qu'elle a une blessure qui...
Ça traîne encore.
Finit plus de. Elle guérit pas, bref. Mais à part Christine Sinclair, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs jeunes joueuses qui pourraient venir jouer un rôle déterminant dans cette équipe-là. Là.
Ah, clairement. C'est ce qui est intéressant à voir aussi, à quel point il y a des joueuses qui se sont signalées cette saison aussi en Europe. Chloé Lacasse, qui est une championne maintenant Portugal. Avec Benfica. On attend encore probablement que Haitema va être championne. Ça va se jouer sur le fil d'arrivée en France. C'est rafraîchissant aussi pour la D1 féminine. Mais quand tu regardes aussi des joueuses comme Fleming, qui déjà à son jeune âge a l'air d'être vraiment en train de s'implanter comme un cadre de cette équipe-là. Janine Becky, qui tranquillement, pas vite, commence à prendre du rythme aussi. Il y a des trucs intéressants qui se placent. C'est pas encore. Je pense que le changement de garde n'est pas encore tout à fait acté. Ça va peut-être être, justement, Tokyo, peut-être l'occasion de faire ce pont-là dans les matchs puis de voir comment tout ça va se passer avec la génération, j'allais dire, vieillissante. C'est chiant un peu, mais j'ai 35 ans, je peux le dire.
Quand même vieux, toi
c'est
aussi,
ça, je peux le dire. Mais c'est intéressant de voir, justement, Beth Priestman, qui, comme nouvelle sélectionneuse aussi, opère ça. Elle gère jusqu'à maintenant assez bien ça, puis est arrivée à créer du jeu à travers ça aussi. Mm-hmm. C'est pas simple aussi. Renouveler un effectif comme ça, quand tu vois encore plus en sélection, quand t'as pas beaucoup de temps à passer avec tes joueuses, tu le vois qu'il y a des clubs qui ont de la misère avec ça. Fait qu'imagine en équipe nationale, mais avec les matchs de la She Believes Cup, il y a eu des trucs intéressants sur le terrain. On arrivait à jouer à travers la pression d'une équipe comme les États-Unis. Je regarde ça avec un petit brin d'optimisme, mais il y a quand même une obligation de résultat à travers ça. Puis Beth Priestman s'en cache pas. Elle répète encore sa formule, on veut changer la couleur de la médaille.
Oui, parce que c'est sûr que le Canada a eu des très belles années. C'est quand même fini depuis un certain temps, l'époque où c'était Canada-États-Unis. Il y a d'autres pays qui sont capables maintenant de venir déranger. Moi, j'ai l'impression, ce que je trouve qui a changé, c'est le talent global. Avant, on avait quelques vedettes. Là, maintenant, on a plusieurs Canadiennes à toutes les positions qui jouent parmi les meilleures équipes au monde, les meilleures ligues. On a parlé de Janine Becky, Manchester City, Ashley Lawrence avec PSG, Buchanan avec Lyon. On a eu Evelyne Bien qui est allée jouer avec le Paris FC. Donc là, tu as des joueurs, même s'ils sont super jeunes, qui ont acquis une super grande expérience dans les plus grandes ligues au monde, en Ligue des champions même. C'est quelque chose, ça change quelque chose quand tu arrives dans des grandes compétitions comme les Jeux olympiques.
Oui, bien sûr, c'est bon signe. C'est le haut niveau, comme le dit Didier Deschamps, c'est ça, c'est de pouvoir se confronter régulièrement à des au top niveau et à des joueuses aguerries. Et justement, c'est ce qu'il faut, c'est d'arriver à se dire que on arrive à faire en sorte, même si c'est pas assez à mes yeux encore là, mais on arrive à faire en sorte à développer des filles qui veulent justement grandir au niveau du potentiel. Et ça passe là encore par des structures qui doivent être encore plus fortes, parce que comme tu l'as dit, il y a des joueuses qui grandissent et qui arrivent à s'émanciper, à se mettre en avant. Mais t'imagines si on avait les structures qui étaient adéquates aujourd'hui au potentiel qu'il y a ou on pourrait être encore demain. Donc il faut l'applaudir, voir justement ce potentiel grandir, mais se dire qu'il y a encore du travail et qui permettra de voir encore plus de potentiel, plus de talent émerger.
Il y a plein de beaux diamants à polir un peu partout.
Oui, exactement.
Sur ces belles paroles, messieurs, vous êtes rendus des messieurs, c'était garçon avant, vous êtes rendus des messieurs.
Oui, il y a un changement de garde qui s'opère ici aussi. Là.
Merci beaucoup pour ce 9e épisode. On vous reparle la semaine prochaine pour un spécial Euro.
Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.
Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.